RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix et, il faut le dire, en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Beaucoup parmi nous, parmi vous, ont le sentiment d'être secoués, de ne plus comprendre les évolutions de notre société et du monde, les modes d'emploi anciens, les clés de compréhension venues parfois du fond des âges ne fonctionnent plus. Alors comment s'y retrouver? À quelle nouvelle boussole faire confiance? Avec notre invité, nous allons tenter d'y voir plus clair, de remonter aux sources, aux racines de ces évolutions qui nous bousculent, aussi bien dans le domaine politique, économique, social que religieux. Jérôme Forquet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous dirigez le département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous avez publié de nombreux livres qui font aujourd'hui référence. Et le dernier s'intitule « La France d'après ». Il est publié au Seuil avec vous dans quelques instants. On va parler de cette relation entre la France d'après et la France d'avant. Et puis nous sommes en compagnie de Bernard Gorce, bonjour.
Bonjour.
Bernard Gorce est journaliste à La Croix et suit tout ces phénomènes depuis de nombreuses années. Voilà, nous allons partir tous ensemble aux sources historiques des changements qui nous touchent.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie du politologue et sondeur Jérôme Forquet autour de son dernier livre « La France d'après au Seuil » et puis de Bernard Gorce, journaliste à La Croix. Alors Jérôme Forquet, si vous voulez bien, on va commencer par analyser l'évolution de l'Église, l'Église en France, l'Église en tant qu'institution. Il y a des chiffres qui font d'une certaine façon froid dans le dos. Dans l'un de vos ouvrages précédents, vous avez travaillé sur les courbes de vocation, d'ordination, et vous avez évoqué ce qui pour certains est un sinistre présage, c'est-à-dire la disparition, à quel horizon vous allez nous le dire, des prêtres catholiques français. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer cette ligne d'horizon?
Alors, si on se base sur les chiffres de l'Église elle-même, oui. Qui les publiait sur le site de la Conférence des évêques de France, on constate que le nombre de prêtres catholiques en activité est passé de à peu près 25 000 au début des années 2000 à moins de 12 000 ces dernières années. Donc, c'est une division par deux de l'effectif. Et donc, si vous prolongez cette tendance, si vous poursuivez la courbe, à horizon 25 ou 30 ans, sachant que vous intégrez en plus l'âge moyen assez élevé de cette population.
Absolument, oui.
On a potentiellement la perspective d'une disparition, une quasi-disparition des prêtres catholiques.
À l'horizon 2050, grosso modo.
Voilà, rajoutons 5 ou 10 ans de plus, et donc on sera dans ces eaux-là. Et donc vous voyez que là, ça éclaire d'un jour totalement nouveau tous les discours sur le déclin de l'influence de l'Église. Hein, c'est pas juste une perte de vitesse ou un repli de l'influence, c'est une potentielle disparition. Peut-être que nous n'arriverons pas à cette extrémité dans la mesure où l'épiscopat français recourt depuis plusieurs années déjà à, on pourrait appeler ça une importation.
Oui.
On fait appel à des prêtres qui viennent des pays du Sud.
Des prêtres africains notamment.
Et donc là, en référence au titre de votre émission,
oui.
Si on se plonge dans la grande histoire, on a un retournement complet de perspective. Puisqu'on rappelle qu'au début du XXe siècle, la France qu'on appelait fille aînée de l'Église assure à elle seule, au début du XXe siècle, le recrutement de deux tiers des missionnaires que Rome envoie partout sur la planète.
Les deux tiers des missionnaires du monde entier étaient français.
Au début du XXe.
Voilà.
Avec les missions étrangères notamment, oui. mais pas seulement. Et donc, à l'échelle du Vatican, à l'échelle temporelle et géographique, ce qui se passe aujourd'hui en France, si on va être un peu provocateur, c'est juste...
C'est un tremblement de terre.
Alors, non. Ce qui se passe en France, c'est juste... une vieille filiale qui a beaucoup donné et qui aujourd'hui est un peu qui est en déclin, qu'il faut aider.
Mais c'est un peu ce que dit le pape François du reste, qui considère que l'Europe
l'avenir, on a beaucoup donné.
C'est
donc
une grand-mère fatiguée.
Voilà, et donc aujourd'hui on se déploie sur d'autres continents, quitte à éventuellement boucher les trous, combler les trous, en effectif, en faisant appel à des prêtres qui viennent de ces pays où des missionnaires français sont allés il y a un siècle porter la bonne parole. Mais à l'échelle de la société française, si on n'est plus dans la position du Vatican, c'est un tremblement de terre sans précédent. C'est-à-dire que c'est une rupture tout à fait fondamentale avec notre histoire de longue durée,
avec notre mode de vie même.
Avec notre
c'est la disparition de Monsieur le curé,
de Monsieur le curé, du prêtre.
Ouais.
Et donc ça signe bien. Là, le fait qu'on soit rentré, si je puis dire, dans le dur, et que c'est pas uniquement, comme dans les années 60-70, un déclin de l'influence. Mmh. Un autre chiffre pour vos auditeurs,
allez-y,
pour qu'on se figure bien les choses, on est actuellement à peu près à 100 ordinations par an en moyenne, peut-être même un peu moins. Mmh. Donc ça fait à la louche un nouveau prêtre par diocèse. Et donc quand vous discutez avec des évêques, ils vous disent souvent qu'ils vont 10 ou 15 fois plus souvent un enterrement d'un prêtre qu'à une ordination dans leur diocèse chaque année. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité du phénomène.
Voilà. Bernard Gorce.
Oui, on parle là de l'Église en termes de ministère, mais l'Église ce n'est pas que ces ministères-là, c'est aussi le beaucoup plus de choses et notamment un certain nombre de références. Et si je comprends bien vous, à travers vos livres, vous expliquez que c'est pas simplement des prêtres qui sont en train de disparaître, mais finalement une matrice chrétienne catholique de la société française qui est en train, alors non pas peut-être de disparaître, mais de s'effacer.
De se vaporiser peut-être, Jérôme Fourquet.
Oui, alors quand j'ai essayé de poser ce diagnostic d'un effondrement de cette matrice judéo-chrétienne qui a structuré quand même la société française sur la longue durée, on s'est intéressé d'abord au premier niveau d'analyse qui est celui de la pratique. Mmh. Et donc à la fois ceux qui disent la messe et ceux qui l'écoutent, donc on a parlé des prêtres. Si vous regardez le nombre de Français qui déclarent aller à la messe tous les dimanches, on est passé de 35% d'après une enquête de l'IFOP de 1960, donc avant Vatican II, à 3-4% aujourd'hui. Donc en deux générations, il y a une fonte tout à fait spectaculaire des effectifs et qui est congruente avec la disparition de nos prêtres catholiques. Mais il faut aller au moins dans deux autres niveaux d'analyse plus souterrains, et quitter la seule pratique, puisqu'on parle d'une matrice qui a structuré la société française, si on est sur la question de l'influence culturelle.
Oui.
Alors, je vais prendre à dessein une variable d'analyse qui est à cheval entre la pratique et l'influence culturelle. Cette variable, quelle est-elle? C'est celle du baptême.
Oui.
Puisque, bien évidemment, c'est un sacrement, donc on est dans la pratique religieuse.
Et c'est le seuil d'entrée dans la communauté.
Tout à fait. Mais c'était également, et c'est également encore aujourd'hui en France, quelque chose qui était assez culturel, assez traditionnel et qui était perçu par beaucoup comme, notamment au cours des dernières décennies, pas forcément très connoté religieusement. On pouvait très bien baptiser son enfant sans aller très assidûment à la messe et sans espérer que son enfant, à son tour, à l'âge adulte, y aille. C'était une pratique, une coutume qui se faisait. Cette pratique et cette coutume, comme elle était un peu déconnectée pour beaucoup de Français de la stricte obédience, si je puis dire, a résisté plus longtemps que l'assistance à la messe dominicale. Au début des années 80, on a encore trois quarts des nouveau-nés qui sont baptisés. Même si à l'époque, vous voyez qu'on est déjà peut-être 15, 20, à peine 15% de gens qui vont à la messe tous les dimanches. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un quart des nouveau-nés qui sont baptisés. Autre élément, toujours sur ce deuxième niveau d'analyse, qui est l'influence culturelle du catholicisme, nous avons réalisé de nombreux sondages pour la Croix qui visaient à mesurer le degré de connaissance d'un certain nombre de termes, de notions, alors l'Assomption,
qu'est-ce qu'un hôtel,
la Pentecôte, etc., sur des fêtes.
Voilà.
Et donc,
la transmission de la culture.
Voilà. Et donc, on voyait, parce que dans le monde d'avant, on pourrait dire dans la vieille confrontation entre Don Camillo et Pépone, là c'était l'Italie, mais ça parlait aussi à la France. Même le camp d'en face.
Oui, la culture était partagée.
La culture était partagée. Voilà. On n'allait pas à la messe, mais on savait ce que c'était que.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, on le voit sur l'Assomption ou autre. On a 80% de Français qui ne savent pas à quoi tout cela fait référence.
Ils savent que c'est le 15 août, qu'on ne travaille pas.
Voilà, que c'est un jour chômé, mais on ne voit pas forcément la référence. Autre élément sur cette perte d'influence culturelle, j'avais travaillé dans l'archipel français sur la question des prénoms qui sont donnés aux enfants. Et donc, on voyait qu'au début du 20e siècle, une petite fille sur cinq qui naissait en France, donc à l'époque où la France produisait beaucoup de missionnaires et de religieuses.
Et beaucoup d'enfants aussi.
Et beaucoup d'enfants. Oui. 20% des petites filles recevaient le prénom Marie. Hein, donc ça vous montre bien le poids de cette matrice catholique qui allait jusqu'à conditionner les prénoms qui étaient donnés. Aujourd'hui, la part de marché, si on peut s'exprimer ainsi, des maris, c'est 0,2 ou 0,3% des nouveau-nés. Mais je pense qu'il faut aller encore
un cran. Au profit de quoi ?
Alors, de très nombreux...
Les prénoms autres, des feuilletons ?
Entre autres, mais pas seulement, des prénoms qui viennent de très loin dans le temps, dans la géographie, des prénoms qu'on invente. Ouais. On est passé là aussi de 2000 prénoms enregistrés à peu près chaque année en France au début des années 1900. Vous prenez l'ensemble des nouveau-nés, il y avait 2000 prénoms. Aujourd'hui, on a plus de 13 000.
Ah oui, donc il y a une créativité.
Sans nom.
Une liberté, une autonomie. Alors,
une autonomisation de l'autonomie qui n'est pas pour rien aussi dans l'effondrement de la matrice, c'est-à-dire que l'individu s'est autonomisé de tout ça.
Voilà. Et ça, c'est la clé.
Voilà. Dernier niveau d'analyse, donc le degré de pratique, l'influence culturelle. Et le dernier niveau d'analyse qui, à mon avis, est encore plus spectaculaire parce que parfois un peu sous-estimé, c'est le niveau qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Mmh. Parce que le catholicisme, le judéo-christianisme, c'est aussi une anthropologie. C'est-à-dire le rapport que vous avez à votre corps, la question de la sexualité, la conception du couple, la hiérarchie entre le règne animal et l'espèce humaine. Tout ça a été structuré très profondément par cette vieille matrice judéo-chrétienne.
Et l'homme est au centre de cette matrice-là.
Et un anthropocentrisme très fort qui est reproché aujourd'hui aux religions du livre par les courants écologistes les plus radicaux. Et là encore, on revient à la France de Don Camillo et Pépone. Sur ces considérants-là...
Tout le monde était d'accord.
Tout le monde était d'accord.
C'était partagé.
Une famille, c'était un père, une mère, des enfants. Aujourd'hui, vous voyez que...
c'est beaucoup plus diversifié.
La PMA, soit 50% des Français, dans une enquête qu'on avait réalisée au moment du débat sur ce projet de loi, disaient qu'ils étaient favorables à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, alors même qu'on avait précisé dans la question, sachant que dans une telle configuration, l'enfant à naître n'aura matériellement pas de père.
Ouais.
Et donc, on avait 50% des Français qui étaient favorables, y compris avec cette exception-là. Quand on regardait dans le détail, 35% seulement des 65 ans et plus qui avaient été formatés, si je puis dire, dans le monde d'avant, dans la France d'avant, étaient opposés avec cette formulation-là, parce qu'ils disaient quand même un enfant a besoin d'un père et une mère.
Voilà.
Les moins de 35 ans, eux, y étaient favorables aux deux tiers.
Voilà.
Et donc, on a un basculement anthropologique qui s'opère. Alors, c'est vrai sur la bioéthique. Regardons ce qui se passe aussi sur la montée en puissance de la cause animaliste.
Eh oui.
Où il s'agit.
Vous avez travaillé là-dessus.
Voilà, où il s'agit de donner de nouveaux droits, etc., etc.
Aux animaux.
Aux animaux.
À tout le moins de les respecter, mais en tout
alors,
cas.
Alors, c'était déjà dans les textes religieux de respecter l'animal, mais l'homme était au centre de tout. Là, aujourd'hui, on va plus loin
que
cela.
Ça se déplace.
Regardons, alors, même si les canons de l'Église ont évolué sur cette question, c'est la question des obsèques, des rites funéraires.
Oui.
Aujourd'hui, il est plus condamné par l'Église de se faire incinérer, crématiser, comme on dit. En 1980, 1% des sépultures donnent lieu à une crémation. Aujourd'hui, on a plus de 35%.
Voilà.
Donc, on voit
ces glissements considérables.
Et Lévi-Strauss, qui a beaucoup travaillé, c'est un très grand historien anthropologue, dit voilà, les questions des rites funéraires sont absolument centrales pour comprendre des sociétés.
Depuis 100 000 ans.
Voilà.
Puisque l'homme est devenu homme à partir du moment où il a commencé à intéresser.
Et donc tout ça bouge. Ouais. Donc sur un rapport au corps, je prendrai un dernier exemple. Il y avait une pratique qui était condamnée dans les textes, mais assez peu en pratique par l'Église parce qu'elle était peu répandue. C'est la pratique du tatouage.
Oui.
Il est dit dans les textes, comme le corps humain a été créé à l'image de Dieu, il est interdit de le marquer, de le scarifier.
Ah oui.
Voilà. Mais donc en Occident, les prêtres faisaient assez peu la chasse aux tatoués parce que ça n'existait
pas. C'était pas une pratique commune.
Aujourd'hui, c'est 18% de la population adulte qui est tatouée.
Oui.
Et 35% des moins de 35 ans. 1% de nos 65 ans et plus. Donc les représentants, ceux qui ont grandi, qui ont été constitués dans la France d'avant. Pour eux, c'était complètement hors sujet. Sauf si on avait fait son service militaire dans la marine ou si on exerçait des professions très spécifiques, de se faire tatouer. Aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants
sont tatoués
à tort de 35%. Donc, il y a 4000 artisans tatoueurs en France.
Et donc
à horizon 20-25 ans, potentiellement autant de prêtres catholiques que de tatoueurs.
Oui.
Et donc là, vous avez bien la grande bascule anthropologique.
Alors, vous nous décrivez toutes ces évolutions fondamentales, ces plaques telluriques, en quelque sorte, qui sont en train de glisser sous nos pieds. Vous nous expliquez d'où elles viennent, mais en même temps, vous pointez des points qui restent concrètement positifs, disons, de la présence des catholiques dans la société, notamment le fait que les pratiquants sont plus investis dans la vie de la cité que la moyenne des Français. Vous avez pu mesurer ça, Jérôme Fourquet.
Oui, alors, là encore, avec des sondages qui sont réalisés régulièrement pour la Croix, ne serait-ce qu'en période électorale, on constate que nos catholiques pratiquants sont beaucoup moins abstentionnistes.
Ils votent.
Ils votent. Alors, ils sont plus âgés, mais même à âge égal, ils vont voter davantage que leur génération. Autre élément, ils sont, conformément aux commandements de l'Église, très impliqués dans la vie de leur communauté, souvent membres d'associations,
c'est ça, de caritatives
ou autres, donc le Secours catholique, des associations d'entraide scolaire, etc., etc.
Ils font du bien autour d'eux, quoi.
Voilà.
Ils font du
voilà.
bien à la société.
Mais le sel de la terre est moins disponible
voilà.
que par le car le passé. Ils doivent donc du coup se démultiplier pour continuer de essayer de remplir ces fonctions alors qu'ils sont en volume moins nombreux qu'avant.
Bernard Gorce, la Croix.
Sur l'influence, toujours l'écho médiatique et peut-être plus que ça populaire, rencontré par le dernier voyage du pape à Marseille, son message très fort sur les migrants, qui a été quand même au cœur de tous les débats pendant plusieurs jours. Comment vous l'interprétez ?
Alors, Fourquet.
Quand on dit qu'il y a un déclin très, très manifeste, ça ne veut pas dire que tout est perdu, qu'il n'y a pas encore...
Merci de nous rassurer.
Non.
Nos auditeurs apprécieront.
Il
n'y
a pas encore oui. dans l'héritage des bijoux de famille, si je puis dire. Donc la parole et la figure du pape restent quand même une autorité respectée. On a vu quand même une certaine ferveur à Marseille. Hein. Ce n'est pas un déplacement qui est passé anodin. Oui. Donc sa parole a encore du poids, incontestablement. Surtout quand, c'est mon deuxième point, il décide de la faire porter sur un sujet
très clivant,
qui est très clivant et qui est très sensible. C'est-à-dire que s'il avait parlé du partage de la valeur dans l'entreprise, je suis pas convaincu qu'il aurait eu un tel écho. Donc parler des migrants dans le contexte actuel à Marseille, tout ça prenait du sens et
en présence des autorités de la République.
Voilà. Et chacun, chaque formation politique. Il s'est positionné en fonction de ça. La gauche, de manière...
était très papiste.
Très papiste, donc un peu à front renversé, quand la droite traditionnelle disait que... voilà,
était un peu inquiète.
Voilà, que le pape ne comprenait pas forcément la réalité de la société française contemporaine, etc., etc. Donc c'est à la fois l'illustration qu'une voix comme celle du pape porte encore, et que c'est une voix très, très, très singulière, mais aussi qu'il sait, en bon politique... doser sa parole et choisir ce sujet en fonction des moments et des lieux où il va s'exprimer.
Alors il dose sa parole, mais il la dose pas toujours avec parcimonie. Vous écrivez, Jérôme Fourquet, que le peuple catholique est coupé en deux, alors peut-être autour de cette ligne de fracture autour des migrants, mais aussi autour de la question de l'écologie. On va écouter quelques paroles du pape François durant les JMJ de Lisbonne au mois d'août dernier, où il nous rappelait l'urgence écologique et l'urgence d'une écologie intégrale qui est loin de faire l'unanimité parmi les catholiques.
La visite du pape au Portugal se poursuit, deuxième jour de ces journées mondiales de la jeunesse. Et ce jeudi, devant les étudiants de l'Université catholique de Lisbonne, le souverain pontife a mis l'accent sur l'écologie et les inégalités sociales. Il a insisté sur l'urgence à agir pour l'environnement.
No olviden que necesitamos de una ecología integral. Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad.
Nos auditeurs hispanophones auront compris. Le pape rappelle donc l'urgence écologique et même l'urgence d'une écologie intégrale. Il invoque la désertification, le réchauffement climatique, etc. Jérôme Fourquet, dans votre dernier livre « La France d'après au seuil », vous identifiez ce clivage autour de l'écologie qui traverse le peuple catholique. Comment est-ce qu'on peut le caractériser ?
Alors, il y a des enquêtes là aussi que l'IFOP a pu réaliser pour certaines organisations chrétiennes assez donc protestantes et catholiques assez en pointe et impliquées sur la question
l'écologie.
De l'écologie en tant que organisation chrétienne. Et donc, ils nous avaient mandaté pour voir faire un état de l'opinion des chrétiens, donc protestants et catholiques, sur ces questions-là. Et donc, autant on voit que il y a pas de réticence à parler d'écologie et qu'il y a une prise de conscience qui est assez forte de la part de nos catholiques sur la réalité du réchauffement climatique, alors même que caractéristique démographique importante, la moyenne d'âge de cette population est plutôt âgée,
donc il pourrait être réticent à une prise de conscience.
Voilà, donc elle est là. autant ils adhèrent à toute une série d'affirmations qu'on avait testées auprès d'eux sur le fait que la nature est quelque part le jardin du Seigneur et que c'est donc aux chrétiens de l'entretenir, de le respecter, le cultiver, etc., etc. Que on disait tout à l'heure, ce sont aussi des chrétiens, des catholiques qui ont chevillé au corps. Le principe de responsabilité en disant voilà je dois faire autant que faire possible autour de moi et donc la question de l'écologie c'est un sujet sur lequel on doit se pencher. Autant là où on voyait qu'il y avait potentiellement un clivage c'est quand on poussait le curseur un peu plus loin jusqu'à cette question de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que j'ai dit voilà la nature est le jardin du Seigneur mais qui a été créé pour que l'homme l'exploite et le fasse prospérer. Et donc sur cette question-là, on voit bien que là,
ça coince.
Il y a un clivage sur une partie des catholiques.
Oui, le pape est quand même décroissant d'une certaine façon,
oui,
ce qui n'est pas le cas de la plupart des catholiques.
Voilà. Et alors attention aussi sur l'écho médiatique très fort qu'a reçu ou dont a bénéficié la fameuse encyclique Laudato Si, qui n'a pas encore véritablement pénétré dans toutes les couches du peuple chrétien et catholique. C'est-à-dire que c'est le public le plus intéressé par l'actualité, le plus investi dans la
déjà
vie de l'Église,
qui
s'est emparé de tout cela. Et donc, on a des associations ou des groupes de pensée qui poussent, des espèces de leaders d'opinion qui poussent très fort à la roue sur ces sujets-là. Mais le monde catholique français classique, si je puis dire, est quand même un ou deux temps de retard sur cette question.
Il est pour le moins perplexe, Bernard Gorce.
Ou pas forcément complètement au fait des tenants et aboutissants de toutes les controverses philosophico-religieuses qui peuvent.
Et puis il peut y avoir au sein du peuple catholique une part de climato-sceptiques également.
Oui, qui peuvent exister.
Qui existent aussi. Bernard Gorce,
la fracture générationnelle est assez forte quand même sur ces questions. Et on voit, y compris dans des mouvements militants écologistes, on en a rencontré, nous, dans notre travail à la Croix, des gens, y compris ceux qui ont des méthodes parfois un peu fortes, d'aller s'allonger sur le périphérique, par exemple. On rencontre parmi ces jeunes-là beaucoup de jeunes qui viennent du christianisme et des jeunes catholiques en particulier.
Oui, alors
Jérôme Fourquet.
Alors c'est un fait vous voyez aussi que une partie des cadres du Parti écologiste ont fait leur classe dans cette matrice-là.
Oui.
Qui était le mouvement scout.
Laurent Berger.
Alors, Madame Mauconduit, qui est la maire de Poitiers.
Oui.
Si vous prenez le maire de Grenoble, le maire de Lyon, le maire de Bordeaux.
Oui.
Alors, c'est des générations différentes, mais tous viennent, si on veut résumer un peu, des courants cathos de gauche. Et donc, ils se sont quelque part, aujourd'hui, retrouvés dans ce nouveau combat. Qui est le combat pour l'écologie politique. Et donc, dans les jeunes générations que vous évoquiez, on retrouve aussi une partie de cette mouvance-là, mais qui est quand même assez marginale, parce qu'on a aussi, parmi ce qui reste de jeunes catholiques, beaucoup de jeunes catholiques qui se sont, par exemple, manifestés lors de la mobilisation de la Manif pour tous, ou qui sont dans des combats qui sont plus marqués par un certain traditionnalisme, un certain conservatisme, en fait. Donc il y a les deux aujourd'hui.
Les racines du présent, RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie du politologue et sondeur Jérôme Fourquet, autour de son dernier livre « La France d'après au seuil », et puis de Bernard Gorce, journaliste à La Croix, et nous essayons d'analyser avec nos deux invités les sources historiques des changements qui nous touchent. Alors nous avons vu ça dans le domaine religieux, dans le domaine de l'évolution de l'Église en tant qu'institution, avec des chiffres assez alarmants, mais aussi des soubassements tout à fait féconds pour la société. Je voudrais aborder maintenant avec Jérôme Fourquet et Bernard Gorce la question de la vie politique. Alors vous écrivez, Jérôme Fourquet, que entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle, eh bien, la géographie politique du pays a assez peu évolué. Mais que pourtant, à partir des années 90, tout le paysage va être progressivement chamboulé. Les vieilles frontières sont effacées, rendant nos anciennes cartes politiques totalement obsolètes. Que s'est-il passé, Jérôme Fourquet ?
Alors, effectivement, là, dans mon livre, La France d'après, tableau politique, donc le titre est un hommage au grand livre d'André Siegfried, Tableau politique de la France de l'Ouest.
Alors, il faut rappeler qu'André Siegfried avait fait la différence, la différence des Frances politiques selon la nature des sols.
En particulier. C'est pour ça qu'il est resté célèbre en prenant l'exemple d'un canton vendéen,
oui.
Talmont-Saint-Hilaire, en disant, il avait recueilli un proverbe local qui disait le granit produit du curé,
oui.
Et le calcaire de l'instituteur. Alors, on va expliquer.
Donc le granit serait à droite et le calcaire serait à gauche.
Pourquoi ? Parce que c'était la perméabilité des sols qui rendait donc du coup des types d'agriculture différentes et aussi habitats groupés ou dispersés.
Ouais. Ça a changé.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du canton de Talmont-Saint-Hilaire ou de très nombreux autres exemples que Siegfried prenait, donc on est au début du XXe siècle. Vous prenez le deuxième tour de 1981 de l'élection présidentielle, donc l'affrontement Giscard-Mitterrand qui illustre jusqu'à la quintessence l'affrontement historique en France entre la gauche et la droite. Dans ces endroits-là, la ligne Siegfried, si on peut parler comme ça, a quasiment pas bougé.
D'accord.
Depuis, en gros, la fin du 19e. Donc sur un siècle, on a une permanence électorale. Et tout va exploser. Alors pour plusieurs raisons. Une qu'on a déjà abordée tout à l'heure. Siegfried, dans son analyse de la France de l'Ouest, mais aussi ensuite dans la monographie qu'il avait consacrée à l'Ardèche, montrait en quoi le degré d'implantation du catholicisme était une variable qui orientait très clairement les votes en faveur de la droite. Et donc, avec l'effondrement du catholicisme, ce point de repère-là s'est lui aussi effondré. Deuxième élément, Siegfried s'intéressait beaucoup, on a parlé des sols, à l'activité économique dominante dans les territoires en question. Donc à l'époque, début du XXe, c'est l'agriculture. Mais aujourd'hui, bien évidemment, l'agriculture ne pèse plus que de manière résiduelle, à l'exception de quelques terroirs. Et donc c'est aussi une révolution économique qui s'est produite durant ces dernières décennies, notamment avec la désindustrialisation de masse, qui s'est traduite par l'effondrement ou la dislocation des vieux bastions ouvriers industriels sur lequel se structurait la gauche. Et donc la thèse.
Donc c'est les deux piliers.
Voilà, c'est les deux. Alors ensuite vous ajoutez ça c'est des piliers des phénomènes intrinsèques de la société française. Et puis on pourrait rajouter aussi la montée en puissance
de l'Europe.
Alors avant cela, toujours dans la société française, quelque chose qui passe souvent sur les radars mais qui est fondamental, c'est comment on est passé sur une période de temps plus courte du début des années 90 avec 30% d'une classe d'âge qui va au bac, à aujourd'hui la prophétie de Jean-Pierre Chevènement de l'époque qui disait on va emmener 80% d'une classe d'âge au bac, on y est.
On y est.
Et donc ça change tout.
Il y a une massification.
Voilà. Ouais. Donc ça c'est les facteurs endogènes et puis de manière plus exogène le facteur migratoire. Et donc la thèse que moi je défends dans mes différents ouvrages et notamment dans le dernier, c'est que le paysage électoral n'est en fait que la résultante de toutes ces variables lourdes.
C'est ça, de l'effondrement des deux piliers.
Alors, soit
et des influences extérieures.
Soit de leur persistance, soit de leur effondrement.
Oui.
Mais c'est, si vous voulez, le dernier étage d'un édifice. Et quand vous avez les soubassements, la cave, les étages intermédiaires qui ont été remodelés.
Et un grand coup de vent sur le toit.
il est illusoire de penser que le sommet de l'édifice va rester tel quel. Et donc, il y a souvent des effets retard. Donc, on a continué à jouer au ping-pong gauche-droite jusqu'à 2012, alors même que tout le soubassement avait été transformé. Et comme souvent en histoire, vous avez la congruence entre des mouvements tectoniques de long terme et puis en surface des événements qui vont catalyser tout ça. Donc c'est la survenue, par exemple, d'Emmanuel Macron dans le paysage en 2017 qui enclenche le grand Big Bang électoral.
Bernard Gorce-Lacroix.
Alors, je vais vous demander un exercice radiophonique compliqué, mais si on devait dessiner la carte politique de la France aujourd'hui, quelles sont les lignes, et j'imagine qu'il y en a plusieurs, qui permettent justement d'essayer de repérer des clivages, et peut-être des clivages nouveaux d'ailleurs, qui ne sont plus les clivages droite-gauche.
Jérôme Fourquet.
Oui, alors sur le plan, on va donner quelques points de repère structurants. Sur le plan géographique, on a d'abord, si on se réfère notamment aux travaux de Christophe Guillouis, la France des grandes métropoles, donc la région parisienne, les principales métropoles françaises, versus ce que Christophe Guillou appelle la France périphérique, donc c'est les sous-préfectures, les préfectures de moindre importance, et puis toute cette France périurbaine et rurale. Et donc là, si je caricature et je vais très vite, on a, sauf exception, un vote Macron et Mélenchon qui est assez puissant dans le cœur des métropoles, et plus on s'en éloigne, plus c'est le vote en faveur du Rassemblement national qui va prendre de l'importance. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Et donc, on repère en gros l'armature urbaine du pays, les grandes métropoles et puis leur périphérie. Deuxième ligne de clivage intéressante, c'est une ligne de clivage qui est plus régionale, entre, d'une part, une France de l'Ouest, toute la façade atlantique.
Oui, depuis la Manche du Sud.
Voilà.
Jusqu'à.
Même du Cotentin. Oui. Jusqu'à Biarritz.
D'accord.
Versus une France du Nord-Est et une France du Midi. Alors, qu'est-ce qui oppose ces.
Qu'est-ce qui les différencie?
D'abord, des éléments très intéressants sur les trajectoires économiques de ces territoires. On a retrouvé une enquête de l'IFOP de 1963, on est en pleine Trente Glorieuse, plein boom industriel et économique. L'IFOP demandait à l'époque aux habitants des différentes régions, est-ce que votre région, vous la considérez comme en avance, en retard ou dans la moyenne sur le plan économique? À l'époque, vous avez toute la France industrielle du Nord-Est qui se perçoit très massivement comme la locomotive du pays, à juste titre, et toute la France de la façade Ouest où on achève en 63 à peine l'exode rural, qui se considère à juste titre comme étant en retard économiquement. On a reposé en 2015 exactement la même question, à 50 ans d'écart, donc deux générations. Comme on dit dans la Bible, les derniers seront les premiers.
Voilà, c'est l'inverse.
C'est une inversion. Oui. Donc économiquement, aujourd'hui, toute cette France de l'Ouest, plus tertiaire, portée par le tourisme,
les services,
avec également des bons taux de réussite au baccalauréat, etc., etc., se perçoit comme objectivement plus préservée. Et on a une France du Nord-Est qui souffre. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse sur nos deux France Est et Ouest. Et puis, autre élément, en lien en partie avec le précédent, cette France du Nord-Est, et puis également une France pour d'autres raisons méditerranéennes, se caractérise aussi par une présence de personnes immigrées ou issues de l'immigration nettement plus importante. Alors pour quelles raisons? Façade méditerranéenne, les régions, il y a une proximité, et puis les régions du Nord-Est, c'était l'appel à une main-d'œuvre immigrée pour travailler dans les mines ou les usines. Et donc aujourd'hui, la société française est en train de basculer dans un schéma multiculturel. On a 21% des nouveau-nés qui reçoivent aujourd'hui un prénom arabo-musulman. Donc c'est considérable en termes d'évolution. Mais toute cette France de la façade atlantique, elle observe des taux de porteurs de prénoms arabo-musulmans qui sont à peu près ceux qu'on constatait en moyenne nationale au début des années 80. Donc la bascule dans un modèle ou un schéma multiculturel ne se fait pas au même rythme dans toutes les régions françaises. Et tout ça conditionne aussi en partie les comportements électoraux, avec un vote pour le Rassemblement national qui est nettement moins fort sur la façade ouest que sur le littoral méditerranéen et la France du Nord-Est.
Alors vous évoquez, Jérôme Fourquet, le Rassemblement national qui s'intitulait autrefois le Front National. Je voudrais vous faire écouter cet extrait sonore et écouter votre réaction ensuite. Nous sommes en 2015, nos confrères de BFM TV ont interrogé des jeunes. Se souviennent-ils de ce qui s'est passé le 21 avril 2002? Vous vous souvenez, le 21 avril 2002, le coup de tonnerre, Jean-Marie Le Pen, à son grand étonnement, du reste, arrive juste après Jacques Chirac, au premier tour de l'élection présidentielle. On va voir quel souvenir il en reste le 21 avril 2015 par BFM TV.
À l'époque, ils n'avaient pas encore le droit de vote. Ils avaient 5, 10 ou 15 ans maximum. 21 avril 2002, la date ne leur évoque pas grand-chose.
Rien du tout.
21 avril 2002, je vois pas ce qui s'est passé.
Chirac contre Sarkozy.
C'était Le Pen-Chirac, c'est ça?
Félicitations mademoiselle, vous au moins vous maîtrisez le sujet. Il y a 13 ans jour pour jour, un second tour inattendu qui va marquer durablement la vie politique. Lui, peu de chance qu'il l'oublie. À l'époque, Olivier Besancenot est candidat à l'élection présidentielle.
Je me souviens que le soir même, on avait appelé à manifester. Ça a été une manifestation spontanée.
où il y a eu énormément de monde, tard le soir, et puis dans l'entre-deux-tours, il y a eu des grosses manifestations, notamment celle du 1er mai.
1 300 000 personnes qui défilent dans les grandes villes, la jeunesse largement mobilisée, tout comme la gauche, pour faire réélire le président sortant. Mais pour ceux qui ont été les premiers à lutter contre le FN à l'époque, le sentiment que tout pourrait recommencer et que la jeunesse d'aujourd'hui y est presque habituée.
Ils sont nourris au biberon des sondages. Marine Le Pen sera au deuxième tour en 2017. Le Front National a encore grimpé. Moi, c'est cette normalité qui m'inquiète.
2 ans avant l'échéance, les pronostics sont forcément hasardeux. Une chose est sûre, certains personnages de 2002 seront bien au rendez-vous.
Voilà, nous étions en 2015 sur BFM TV, c'était l'anniversaire du 21 avril 2002, donc l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Quelle lecture vous faites de l'émergence du Front National, puis du Rassemblement National depuis 1984, puis depuis 2002, Jérôme Fourquet ?
Alors ça participe de cette bascule dans cette France d'après et à la dislocation du vieil ordonnancement gauche-droite. À l'époque, quand le Front National surgit de manière fracassante sur la scène électorale au milieu des années 80, donc élections partielles à Dreux et à Aulnay-sous-Bois, puis les élections européennes de 1984.
Ouais, c'était Jean-Pierre Stirbois.
Voilà, Dreux. Certains diagnostiquent un effet feu de paille, comme on avait connu du temps du mouvement Poujade dans les années 50. Mmh. Et nous sommes 40 ans plus tard. Et on est à la deuxième, voire la troisième génération de la famille Le Pen.
Et il y a 89 députés.
Et 89 députés. Dans votre reportage sonore, une des personnes interviewées, nous sommes en 2015, dit on prépare dans les esprits les gens. Donc on est en 2015. Et effectivement, en 2017, Marine Le Pen qualifiée au second tour. Et 2022, qualifiée au second tour.
Voilà.
Donc, si on reprend ma grille d'analyse du paysage électoral comme clé de lecture de ce qui s'est transformé dans la société française, il y a 2 ou 3 ingrédients majeurs au développement et à l'enracinement du vote pour le Rassemblement National. C'est tout d'abord la question de l'immigration, qui se développe dans ces années-là. Et donc la réponse électorale, c'est le vote pour le Front National, c'est la montée de l'insécurité.
Même dans les zones où il n'y a pas d'immigration, du reste.
Oui, oui. Alors, c'est pas fort. Les deux ne font pas forcément corrélés, voilà. Mais ces deux sujets qui sont au cœur du discours du Front National depuis toujours, et quand on voit les enquêtes d'opinion réalisées, les jours de scrutin auprès des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National, ils continuent de mettre en très bonne place ces sujets-là comme étant les motivations de leur vote. Et puis un troisième sujet sur lequel Marine Le Pen a beaucoup insisté ces dernières années, c'est les conséquences économiques et sociales des modifications économiques très profondes que notre pays a connues. Alors on a parlé de la désindustrialisation tout à l'heure, mais également consécutive à l'insertion accélérée de notre pays dans l'intégration européenne et dans la globalisation, avec des gagnants, des perdants.
Ça a été un grand coup de vent.
Voilà. Et donc, ces territoires qui sont plutôt perdants, ces transformations, portent une oreille attentive au Rassemblement National. Alors, les gens de BFM avaient interrogé les jeunes de 2015. Mmh. Moi, j'ai regardé, grâce à nos sondages, comment avait évolué dans le temps une même génération.
Allez-y.
Celle qui avait manifesté avec Monsieur Olivier Besancenot en 2002. Vous vous souvenez, c'était le fameux slogan « La jeunesse emmerde le Front National ». À l'époque, effectivement, au deuxième tour, les gens qui avaient entre 18 et 24 ans avaient voté à 7% pour Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, en 2002. Mmh. Cette génération, en 2022, elle a 20 ans de plus, donc elle a entre 38 et 44 ans. Elle a voté à 47% pour Marine Le Pen. Donc la génération... moi j'ai appelé les Berruriers qui avaient donné le titre d'une chanson et qui avait été repris dans ces manifestations, et ben en 20 ans ces mêmes individus
ça a basculé.
Ils sont quasiment un sur deux, donc ça dit aussi là encore cette tectonique de plaques très spectaculaire.
Bernard Gors.
Oui, on voit bien donc aussi toute la normalisation, l'effort de normalisation que fait le Rassemblement National aujourd'hui, et la fin de votre livre, La France d'après, se termine justement un peu de prospective sur ce qui pourrait se passer en 2027. Et vous dites que le Rassemblement National a quand même quelques atouts, paraît être aujourd'hui peut-être la force politique la plus à même de s'imposer. Quelle est la dernière barrière, quelle est la dernière marche à franchir pour le Rassemblement national pour réussir finalement cette normalisation? Quel est encore ce qui lui...
Alors, Jérôme Forquet.
Alors attention, on n'est pas dans la divination et la prospective et il peut se passer énormément de choses. On a vu la guerre en Ukraine, les gilets jaunes, le Covid, et donc les cartes peuvent être rebattues à tout moment. Si on regarde néanmoins froidement les choses, on voit quand même qu'il y a de manière assez incontestable sur la longue durée une dynamique électorale et sociologique en faveur du Rassemblement national. Aujourd'hui, le Rassemblement national, en tout cas, ses idées font moins peur qu'elles ne le faisaient par le passé. Les événements récents dans le sillage du conflit israélo-palestinien...
La reprise des attentats.
Avant la reprise des attentats, ce qui s'est passé sur la qualification ou non du Hamas en tant que mouvement terroriste, la manifestation de soutien au peuple israélien. Et donc, je fais le parallèle entre cette manifestation récente et ce qui s'était passé il y a 33 ans, en 90, au moment de la profanation du cimetière juif de Carpentras.
Et oui.
À l'époque... ce qu'on n'appelait pas encore comme ça, tout l'arc républicain avait défilé François Mitterrand en tête, président de la République, pour manifester son rejet de l'antisémitisme. Et le parti qui était paria et qui était mis au banc de la société, c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen, avec ses dérapages sur du rafour crématoire, les juifs ont trop de pouvoir dans les médias, et les chambres à gaz comme point de détail de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale. 33 ans plus tard, le Front National...
Tout ça est oublié.
C'est pas complètement oublié, mais n'a pas été reçu à bras ouverts dans la manifestation, mais il a été toléré.
Absolument.
Alors que c'est la France insoumise qui aujourd'hui fait figure de paria. Donc on voit, et cette question de l'antisémitisme est très importante parce que c'est un peu, si vous voulez, le thermomètre de la dédiabolisation, de la normalisation terminée ou achevée. Et donc on est en cours. Maintenant, si le Rassemblement national fait peur à moins de Français que par le passé, de par ses idées. Il y a encore un obstacle très important, et je termine mon livre là-dessus, sur une enquête de l'IFOP qui montre que, au fur et à mesure où la perspective d'une victoire ou d'une accession au pouvoir du Rassemblement national se fait plus envisageable, et pas forcément souhaitée, il y a un autre spectre qui émerge et qui constitue un verrou très important de mon point de vue, c'est le fait que plus de 70% de Français, y compris une partie de ceux qui peuvent être d'accord avec les thèses du Rassemblement national, anticipe un chaos dans le pays en cas de victoire du Rassemblement national.
C'est ce que vous avez mesuré.
Voilà, ce qu'on mesure aujourd'hui dans les enquêtes. Ouais. Et donc là, il y aura un paradoxe, c'est-à-dire
donc il y a une crainte.
Qu'il y a une crainte. Alors, plus forcément que ces idées arrivent au pouvoir, ça demeure une crainte pour beaucoup de Français, mais pour moins qu'avant. Le paradoxe, ça pourrait être qu'un certain nombre de Français qui pourraient tenter de voter pour Marine Le Pen au nom de la remise en ordre du pays, recule devant la perspective d'un chaos extrême qui serait multiple, des tensions dans les banlieues, un appareil d'État et des fonctionnaires qui refuseraient d'appliquer des consignes. Autre limite, le fait que le Rassemblement national, contrairement à d'autres partis, n'est pas forcément le vivier de cadres et de responsables suffisants pour prendre les rênes du pays. Et donc, ça reste ça un point d'achoppement très important qui se cristallise aussi un petit peu quelque part dans la figure de Marine Le Pen. Elle fait beaucoup moins peur que ne faisait son père. Il n'y a pas de dérapage, on en a rappelé beaucoup. Mais en revanche, on l'a vu dans les débats d'entre-deux tours, il y a encore une vraie interrogation, y compris dans ses troupes, sur la carrure et la stature d'homme d'État ou de femme d'État pour elle et son entourage proche.
Et pour les équipes qui l'entourent. Alors, vous évoquez ce risque de chaos. On l'a connu au moment de l'épisode des Gilets jaunes. Je voudrais vous faire écouter, Jérôme Forquet, un reportage qui a été réalisé par nos confrères de Radio-Canada. C'est toujours intéressant d'avoir un accent extérieur dans tous les sens du terme sur une réalité française. Notre confrère de Radio-Canada, Jean-François Bélanger, était présent sur les Champs-Élysées avec les Gilets jaunes le 25 novembre 2018. Écoutez un extrait de son reportage.
C'est la colère !
Une colère, longtemps contenue, qui éclate tout à coup. Les Gilets jaunes ont convergé par milliers vers Paris, bien déterminés à se faire voir, à se faire entendre des autorités. Parmi eux, Jérôme, un mécanicien chez Air France qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Une situation résumée en chiffres sur son gilet.
Mon salaire qui augmente pas, j'ai pris 2% d'augmentation en 5 ans. Il y a tout qui augmente. Je pense que le prix du carburant, bah, c'est la goutte d'eau, comme on dit, qui a fait déborder le vase. Et là, on en est là.
Une baisse du pouvoir d'achat que ressentent encore plus durement bien des retraités, comme Daniel Morin, très en colère contre le président Macron.
C'est un banquier, et c'est ni plus ni moins qu'un banquier. Et il nous prend vraiment pour des idiots, et là, c'est vraiment, ça devient insupportable.
Les manifestants voulaient défiler place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale et du palais présidentiel. Impensable pour les autorités qui ont déployé plusieurs milliers de policiers dans la capitale pour les en empêcher. Alors, les Gilets jaunes ont investi les Champs-Élysées. Ils s'y sont installés, ont érigé des barricades, souvent enflammées. Ils ont défendu leur position à coups de pavés avant d'en être délogés. Puis, de recommencer un peu plus loin. Gaz lacrymogène et canon à eau, contre-projectiles improvisés. Un air de champ de bataille sur la plus belle avenue du monde. Des affrontements violents qui ont choqué plus d'un manifestant.
On ne s'attendait pas aujourd'hui à tous ces débordements, ces feux, etc. C'est très dangereux, c'est très dangereux.
Au départ, initiative pacifique venue de la base, le mouvement des Gilets jaunes est en train de donner lieu aux émeutes les plus violentes de la présidence d'Emmanuel Macron. Un mouvement d'autant plus dangereux pour les autorités françaises qu'il n'a pas de véritable dirigeant avec qui négocier. Les affrontements se sont poursuivis toute la journée et une bonne partie de la soirée. Beaucoup de dommages et quelques dizaines de blessés, mais moins de manifestants que samedi dernier. 8 000 à Paris, selon les forces de l'ordre, 80 000 dans toute la France. Mais leur influence reste bien réelle. Selon un récent sondage, près de 80 % des Français soutiennent les Gilets jaunes et considèrent leur action légitime. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.
Voilà, c'était le 25 novembre 2018. Alors, on le sait, depuis, nous avons connu des émeutes bien plus violentes. Alors, Jérôme Fourquet, je rappelle le titre de votre dernier livre, La France d'après, publié aux éditions du Seuil. On a entendu l'un des Gilets jaunes évoquer le prix du carburant. Et vous dites dans votre livre que Marine Le Pen est très attentive à ce qu'on appelle le peuple de la route. C'est-à-dire, les deux tiers de la population sont dépendants de la voiture, dont un tiers très, très dépendant. Et vous écrivez, Jérôme Fourquet, plus on s'éloigne de la gare, plus Marine Le Pen va prendre l'ascendant. Là, c'est une ligne de fracture de la société française ?
Oui, tout à fait. Avec, là encore, vous voyez comment les nouveaux paysages, l'organisation du territoire, cette France périphérique, créent des lignes de faille. Aujourd'hui, à Paris, intramuros, il n'y a plus qu'un tiers des habitants qui possèdent un véhicule,
ouais,
contre 82% en moyenne nationale. Et donc, quand on augmente la taxe sur l'essence, quand on rend obligatoire les pneus neige dans les 50 départements qui sont classés en zone montagne, quand on durcit les conditions du contrôle technique, c'est pas un sujet
ou
à Paris.
Ou les conditions d'accès aux grandes métropoles à travers les ZFE.
Exactement. C'est pas un,
voilà.
Mais c'est un sujet tout à fait fondamental, mm-hmm, pour beaucoup de Français. Le dénommé Jérôme, qui est mécanicien chez Air France, peut penser qu'il doit travailler à Orly ou Roissy, et on peut faire l'hypothèse qu'il ne réside pas à proximité.
Oui.
Et qu'il est ce qu'on appelle un navetteur ou un grand banlieusard qui va être très 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 tributaire, mmh, de la voiture. Et donc on voit, pour moi c'était une révélation, ce mouvement des Gilets jaunes, parce que sont venus se cristalliser beaucoup d'éléments de cette France d'après. Il y a un coup de génie marketing involontaire. Vous savez que le Gilet jaune, c'est la tenue réglementaire dans beaucoup d'entrepôts logistiques.
Oui.
Donc les gens qui conduisent des camions, qui travaillent dans ces entrepôts ou autres,
qui confectionnent les colis que
voilà,
nous attendons,
sont souvent porteurs de gilets jaunes. Dans la terminologie administrative, un gilet jaune, ça s'appelle un vêtement de haute visibilité.
Mmh.
Et donc ils ont ces invisibles
sont devenus visibles.
Les gens du back office.
Ouais.
Sont devenus visibles. Ils ont défilé sur la plus grande avenue du monde. Et on entend très bien dans ce reportage à la fois les difficultés matérielles, mais aussi des choses beaucoup plus profondes comme le manque de considération.
Ouais.
On ne nous entend pas.
Ça, c'est quelque chose qu'on entend à tous les échelons de la société
voilà,
française.
Voilà, mais notamment sur ces fameux invisibles.
Oui, on n'a pas de reconnaissance.
Qui n'étaient pas syndiqués,
ouais,
qui ne s'étaient jamais pris à faire des manifestations. Mmh. Donc, il n'y avait pas de leader. On a vu que systématiquement, les itinéraires qui étaient à peu près négociés de parcours de manifestation n'étaient pas respectés. Et il n'y avait pas de service d'ordre.
etc., etc.
Et du coup, il n'y avait pas d'interlocuteur pour les pouvoirs
Il
n'y
avait
publics.
Pas d'interlocuteur. Et puis, ouais. On sent aussi, dans un des témoignages, comment beaucoup de cette France d'en bas, cette France du back-office, cette France des coulisses, ressent une morgue, ou a ressenti, à tort ou à raison, une morgue émanant du président de la République, président jupitérienne, très surplombante. Alors, on était au début de son premier mandat. Tout de suite, on lui colle l'étiquette du banquier. Il ne manquait plus que le banquier de chez Rothschild, qu'on a, on a souvent entendu aussi sur les ronds-points. Et on voit aussi, là, c'est très nouveau, comment se structure de plus en plus le paysage politique au deuxième tour, notamment dans le cadre d'un affrontement Le Pen-Macron. Aujourd'hui, c'était, enfin, lors de ces deux élections, on avait clairement une France d'en haut versus une France d'en bas. Oui. Les CSP+, les grandes métropoles, les diplômés d'un côté.
Qui votent Macron.
Et les autres qui votaient préférentiellement pour Marine Le Pen. Alors que dans le monde d'avant, qui n'est pas si ancien que ça, typiquement en 2012, affrontement Sarkozy-Hollande, le rapport de force est équilibré, quel que soit le niveau de diplôme, quelle que soit la profession et quel que soit le type de commune. On a des grandes métropoles qui votent à gauche, mais aussi on a des grandes métropoles, Marseille, Nice, Toulon ou autres, qui votent à droite. On est dans un deuxième tour et l'image d'Épinal qui veut que les catégories populaires votent plutôt à gauche, bah, elle est sérieusement nuancée aujourd'hui, vu que c'est Marine Le Pen qui arrive en tête au premier tour. Et donc toute une partie de cet électorat lepéniste ouvrier, dans un deuxième tour, Sarkozy-Hollande, vote Sarkozy. Donc, à l'époque, on est encore dans deux France en silo, à peu près très hétérogènes sociologiquement et géographiquement, qui se font face, le monde d'avant. Et puis le monde d'avant, aujourd'hui, il est en millefeuille.
Il est en millefeuille.
Avec le haut et le bas, et la crise des gilets jaunes, quelque part, a donné ça à voir.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, Jérôme Fourquet, que dans le cadre de la mise en œuvre de futurs impératifs écologiques, je pense à la taxe carbone, je pense à la hausse du prix de l'énergie, je pense à la hausse du coût de l'enlèvement et du tri des ordures, les zones à faible émission qui vont être généralisées dans les grandes métropoles, est-ce que tout ça ne risque pas de faire, en quelque sorte, des allumes-feux pour un nouvel épisode de type gilet jaune, Jérôme Fourquet?
Alors, c'est très difficile à prévoir. Une fois que ça démarre, on dit bon sang, mais c'est bien sûr. Donc, mais c'est pas évident. On revient au propos de Jérôme.
Jérôme d'Air France.
Jérôme d'Air France qui disait le prix du carburant. À l'époque, souvenons-nous, le prix du litre de diesel est à 1,40€. Aujourd'hui, on est à 2€ et pourtant. On n'a pas revu les gilets jaunes. Donc, la situation est inflammable, mais elle ne s'est pas encore inflammée. Et alors, effectivement, un certain nombre de mesures que vous avez évoquées pourraient mettre le feu aux poudres, ce que le gouvernement sent pertinemment.
Et il recule.
Et donc, on voit bien que on repasse, si vous me permettez l'expression, la patate chaude aux métropoles en leur disant « c'est à vous d'organiser ». Les zones à faible émission, c'est vous qui définissez les critères de véhicules.
On ne va pas refaire le coup du 80 km/h sur les routes.
Et surtout pas non plus, encore pire, le coup des péages urbains.
Hein,
parce que là, c'est là dans l'imaginaire français, ce serait très compliqué. Donc, il y a cette attention. Il y a aussi le quoi qu'il en coûte qui est passé par là. Et donc, on distribue quand même un chèque énergie, un chèque carburant. Et donc, on essaie de marcher sur des œufs du côté du gouvernement. Et je pense que à côté de la mesure elle-même, il y a aussi la façon dont elle est annoncée,
naturellement,
la façon dont elle est justifiée. Et je pense que ce qui met le feu aux poudres aussi, c'est, encore une fois, ce qui est perçu comme de l'arrogance, de la morgue et des leçons de morale. De la part, par exemple, d'une France des élites qui vivrait dans les grandes villes et qui viendrait pointer du doigt cette France périphérique en
le
disant...
Le peuple de la route.
Le peuple de la route, le peuple des lotissements, des barbecues.
Qui a deux voitures.
Qui a deux voitures, qui se réunit le week-end autour d'un barbecue et qui mange du steak frites.
Voilà.
Benjamin Griveaux disait, ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel, eh bien c'est cette morgue-là qui, à mon avis, Pierre Rosanvallon en parle, sur les affects,
qui est toujours
a des effets politiques qui peuvent être beaucoup plus déflagrateurs que parfois la mesure elle-même.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie du sondeur et politologue Jérôme Fourquet autour de son dernier livre « La France d'après au seuil » et du journaliste à la Croix Bernard Gors, et nous essayons de comprendre les sources historiques de tous ces changements qui nous touchent. Nous avons évoqué les changements religieux, les changements politiques, les changements économiques. Je voudrais revenir avec vous, Jérôme Fourquet, nous arrivons malheureusement au terme de cette conversation, sur la question du rapport à l'islam au sein de la société française. On voit que la question des islams a fait un retour en force dans l'actualité internationale de façon tout à fait bouleversante. Vous avez mesuré en Seine-Saint-Denis la perte d'influence du Parti communiste par rapport à l'islam, Jérôme Fourquet.
Oui, alors là, on rendait hommage à les travaux d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras, qui avaient écrit un livre au début des années 80, ce qu'ils appelaient l'invention de la France. Oui. Et donc, ils avaient cartographié, on revient sur Don Camillo et Pépone, les 20 départements les plus communistes et les 20 départements les plus catholiques. Ils montraient qu'il n'y avait aucun recouvrement, aucun recoupement, que c'était bien les deux piliers historiques. Voilà.
Alors aujourd'hui, voilà. Avec l'islam...
Et donc là, moi, je suis allé regarder en Seine-Saint-Denis, qui était un bastion du PC, et pour montrer le fait que le PC, aujourd'hui, dans ses bastions, de manière métaphysique et idéologique, il ne se bat plus contre son adversaire historique, le catholicisme, mais qu'il a un autre adversaire ou un autre concurrent très dynamique qui s'appelle l'islam. Et si on matérialise physiquement...
Alors comment avez-vous fait ?
Eh bien, d'un côté, on a été regarder l'implantation des permanences électorales du Parti communiste, parce que c'est comme ça qu'on vous tenait un quartier ou une ville. Et puis de l'autre, l'implantation des mosquées. Et donc, on est de mémoire à 27 permanences contre 82 mosquées.
Oui.
Et donc, la carte qu'on appelle Marx versus Mahomet, puisque Todd et Lebras avaient appelé ça Marx et Jésus, eh bien, montre comment on est passé d'une religion à une autre. Et cette question de l'affirmation de l'islam dans la société française, eh bien, n'en finit pas d'alimenter les controverses, les débats. La rentrée dernière s'est faite sous le signe de l'abaya.
De l'abaya.
Et en 1989, à Creil, c'était les prémices de tout ça, avec l'affaire du voile. Et on rappelle que monde d'avant, monde d'après, 1984, grande manifestation pour l'école privée, ou l'école libre, dirait-on sur RCF. 94, le match retour du camp de la laïque contre la réforme de la loi Fallou sur la capacité de financer les établissements privés par les collectivités locales. Et donc là, on avait les derniers feux, si vous voulez, de la guerre des deux écoles.
Voilà.
Donc on revient encore sur...
Et aujourd'hui, c'est plus le sujet.
Et aujourd'hui, la question de la laïcité à l'école, qui a été pensée pour faire reculer l'influence de l'Église sur la sphère éducative, aujourd'hui, s'il y a un regain d'intérêt dans le débat public sur la question de la laïcité à l'école, c'est plus pour contrer l'influence déclinante du catholicisme, mais face à la montée en puissance de l'islam.
Est-ce que vous avez pu mesurer, Jérôme Fourquet, cette évolution, cette montée des formes de culture musulmane et islamique dans la société française ?
Alors, on l'a mesuré, je l'indiquais tout à l'heure.
Le taux de pratique du ramadan, par exemple.
Alors, le taux de pratique du ramadan, parmi les personnes qui sont de confession de culture musulmane, on est à peu près à 70% d'observance. On était à 60% à la fin des années 80, donc ça monte. Ouais. Vous voyez le développement d'un marché halal.
Ouais.
Alors, il y a aussi des intérêts économiques, des acteurs qui se sont structurés pour répondre à cela. On a parlé de la baïa. Regardez sur la persistance du choix des prénoms arabo-musulmans, c'est à peu près 21%
donc là,
des nouveau-nés.
Il y a toute une galaxie d'indicateurs.
Voilà, qui montre que cette pratique est très, très suivie. Mmh. Et donc tout ça pose beaucoup de questions à un pays qui n'est pas équipé pour cette matrice-là comme racine, et qui s'est construit aussi sur le concept de laïcité.
Oui.
Et donc qui est percuté de plein fouet avec ces nouvelles formes.
Donc un grand, grand point d'interrogation. Un grand merci à vous, Jérôme Fourquet, pour nous avoir aidé à comprendre d'où vient notre société, comment elle évolue et peut-être vers quoi elle va. Je rappelle le titre de votre livre, La France d'après, c'est aux éditions du Seuil. Si j'ose dire, c'est une petite bible intéressante pour comprendre d'où nous venons et où nous allons. Un grand merci également à Bernard Gore, ce journaliste à la Croix, qui suit ces questions depuis de longues années. Un grand merci à notre réalisateur Antonin. Et puis, évidemment, vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions en podcast, en balado-diffusion, où que vous soyez, quand vous voulez. Et c'est encore la meilleure façon de faire connaissance avec les racines du présent. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de votre fidélité.